venir au théâtre, faut-il se lever très tôt? C'est ce que nous allons tenter de savoir ce soir avec notre invitée, Laetitia Guédon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Laetitia, tu as déjà un beau parcours puisque tu, depuis plusieurs années, voire un peu plus, tu as débuté en tant que comédienne, tu es également metteuse en scène de pièces de théâtre et depuis 2016, il me semble, tu es la directrice du théâtre des Plateaux Sauvages dans le 20e arrondissement. Pour l'instant, j'ai tout bon ?
C'est tout bon.
Fantastique, je vais essayer de garder le grand chelem. Alors, pour commencer par le commencement, par le début, je crois que ton papa, Henri Guédon, était peintre. Comment c'était de grandir avec lui? Est-ce que toi, tu as toujours eu la fibre artistique? Tu as toujours plus ou moins su que tu ferais un métier artistique?
Merci pour cette question. Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était et peintre et plasticien, donc et musicien aussi, parce que c'était un très grand percussionniste. Et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement le suivre en tournée. Ma mère, mes parents après se sont séparés, mais quand ils étaient ensemble, ils formaient un duo assez incroyable. Ma mère était sa productrice. Et donc j'ai eu la possibilité de baigner très très jeune dans cet univers de la musique. Alors pas du tout un univers de théâtre, mais en tout cas l'univers de la scène musicale et puis évidemment de l'atelier, puisque mon père peignait tout le temps. Ma mère m'a inscrite dès toute petite dans des cours de théâtre, je pense dès que j'ai eu 6-7 ans. Je pense qu'elle voulait faire du théâtre, elle voulait être comédienne. C'était pas un rêve qui a pu se réaliser pour elle, donc elle m'a transmis cette fibre-là. Je fais du théâtre d'aussi longtemps que je me souvienne. Voilà. Est-ce que j'ai toujours su que je voulais faire un métier artistique? Je pense que oui. Moi, je me souviens très bien au moment où on passe le bac, on a les fameux conseillers d'orientation qui disent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, que pour moi, c'était comédienne. Mais j'ai découvert après que c'était peut-être pas comédienne exclusivement que je voulais faire, mais faire de la mise en scène. Et ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard.
Oui, ça recouvrait une palette assez large. Donc finalement, j'allais te demander, c'était ma prochaine question, quand est-ce que tu as commencé à proprement parler le théâtre? Mais finalement, t'as pas, comme tu disais, t'as commencé très jeune et c'est simplement que t'as pas arrêté à l'adolescence puis à l'âge adulte.
Exactement.
Donc tu as été une élève du studio d'Asnières d'abord en tant que comédienne, puis ensuite pour la mise en scène tu as suivi les cours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris. Il me semble que c'était un de tes professeurs était Antoine Bourseillet.
Alors non.
Non. Mince.
En fait j'ai commencé de façon un peu étonnante puisque moi j'ai commencé par travailler. J'ai fait effectivement des cours dans mon enfance, dans mon adolescence, comme beaucoup d'adolescents peuvent le faire. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai été engagée dans un spectacle par une metteur en scène guyanaise qui est toujours en activité d'ailleurs, qui s'appelle Odile Pedro Leal et qui avait monté une adaptation de la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca. Mmh. Et ça m'a permis de travailler avec des comédiennes immenses comme Nicole Doguet, Jenny Alpha, qui malheureusement est décédée, mais qui était une très grande artiste de cabaret. J'ai bien compris en travaillant et en étant en contact de ces grandes actrices qu'il était nécessaire de me former. Et c'est à partir de là où j'ai intégré l'école du studio d'Asnières, où j'ai eu des professeurs incroyables comme Patrick Simon, comme Hervé Van Der Mullen, comme Yveline Amon, qui m'ont beaucoup accompagnée dans ce travail. Mais j'ai aussi fait ma première mise en scène en étant à l'école du studio. Mmh. J'ai découvert que je voulais faire de la mise en scène et j'ai commencé exactement comme comédienne par travailler et j'ai assisté Antoine Bourseillet, qui est metteur en scène, qui a été un très grand artisan de la décentralisation pendant 2 ans. Et j'ai eu aussi le besoin de me former à la mise en scène un peu plus, d'aller plus loin dans la direction d'acteur. Et c'est là où j'ai intégré le Conservatoire National dans l'unité de mise en scène et où j'ai pu travailler au contact de, en tout cas observer des artistes comme Daniel Mesguige, comme Sandy Ouvrier, de regarder un petit peu leur direction d'acteur, Nada Strancard, Dominique Valadier. Et j'ai beaucoup appris en les observant. Ouais.
D'accord. Et donc ces différentes expériences dans le jeu et la mise en scène, ça t'a amené, il me semble que c'était en 2006, à créer la compagnie, alors je veux bien le prononcer, 0,10.
Absolument.
Tout simplement.
Tout simplement.
Comme ça, comme ça s'écrit. Comment ça s'est fait justement? Est-ce que tu t'es dit, j'ai beaucoup observé les grands maîtres, les maîtresses dont tu parlais et tu as voulu te jeter à l'eau? Comment ça s'est fait la création de cette compagnie-là?
Alors, cette compagnie, en fait, elle s'est faite, elle s'est pas faite tout de suite. D'abord, quand j'ai été à l'école du studio, il y a des comédiennes de la promotion qui étaient au-dessus de moi, qui voulaient que je les mette en scène dans une pièce de Dea Lauer qui s'appelle Barbe Bleue, Espoir des Femmes, qui est une très très belle pièce. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les mettre en scène. On avait monté une compagnie à l'époque, voilà. Et j'ai découvert en fait ce que c'était d'être metteur en scène à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire impérativement. Et en sortant de l'école, j'ai voulu monter un texte d'un auteur que m'a fait découvrir Patrick Simon, qui était mon professeur à l'époque à l'école du studio, qui était Kofi Kwaoulé, grand auteur franco-ivoirien, et qui avait écrit un texte magnifique qui s'appelait Bintou, sur une héroïne de cité qui est à la tête d'un gang de garçons et qui fait régner sa propre loi dans la cité. Sauf que ce texte-là, il y avait 17 personnages dedans, 16 ou 17 personnages, et que moi je me suis dit, bah, je vais monter ma compagnie pour monter ce spectacle avec 19 acteurs, parce que je voulais en plus des musiciens. Tout le monde me disait que j'étais un peu dingue de faire ça, mais je l'ai fait, et c'est un spectacle qui a été en résidence au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, à l'époque où Christophe Roque dirigeait ce Centre Dramatique National. Puis j'ai été accueillie par Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet à la Chapelle du Verbe Incarné. Et c'est comme ça que j'ai fait progresser la compagnie. Donc c'était vraiment monter une compagnie. Pour moi, c'était avoir un outil administratif, structurel, pour pouvoir mettre en scène mes projets. Mais j'avais déjà la vision que ce ne serait pas mon unique projet Bintou et qu'il y en aurait d'autres après.
Donc Bintou de Kofi Kwaoulé dont tu parlais, c'est la première, c'est ta première mise en scène, on va dire.
On va dire en tant que compagnie, vraiment professionnelle, ouais, c'est ma première vraie mise
en
scène.
Comment ça s'est passé ? Alors je me doute que c'était une bonne expérience puisque tu as continué par la suite, mais est-ce qu'il y a eu un bon bouche-à-oreille ? Est-ce que le public s'est déplacé ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a...
Alors au départ, il n'y a pas eu de bouche-à-oreille du tout. Au départ, j'envoyais des lettres, comme je pense tous les jeunes metteurs en scène commencent, à tout le réseau des théâtres de France, de Navarre et de Navarro pour essayer d'avoir une date dans un théâtre, une résidence, etc. Et puis à l'époque, j'avais un cousin qui est un cousin pas vraiment de famille, mais en tout cas, on a le même nom, donc on s'appelle des cousins, qui est un saxophoniste qui s'appelle Jean-Rémy Guédon et qui connaissait le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et qui est un peu au culot. Je parlais tellement de ce projet qui était tellement obsessionnel qu'il a été voir Christophe Roque et lui a dit, écoute, j'ai une cousine, elle a un projet super, il faut que tu la rencontres. Il ne le connaissait pas. Il m'a rencontré, il m'a donné un rendez-vous et il m'a proposé une résidence. Et il m'a dit, Christophe, à cette époque, voilà, il faut que tu sois intelligente, que tu montres un peu voilà, ce que tu as envie de tisser, mais peut-être ne monte pas totalement spectacle. Bon, j'ai monté totalement spectacle à l'issue de cette résidence. J'avais des comédiens incroyables, Adama Diop qui jouait dedans. Il y avait Annabelle Langrone qui maintenant fait une carrière au cinéma exceptionnelle.
Très belle carrière.
Et c'est vrai que j'ai monté ce spectacle. J'ai fait venir beaucoup de pros. Marie-Pierre et Greg de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon l'ont vu. Et puis, ils m'ont proposé d'aller à Avignon. Et c'était un gros pari parce qu'il fallait partir avec 19 personnes dans une compagnie qui n'était pas du tout structurée. Mais ils m'ont vraiment aidé à trouver des aides, des subventions, à essayer de comprendre. Et puis moi, j'ai mis la main à la pâte aussi. Je me suis intéressée à l'administration, à la production. C'est devenu même une passion par la suite, puisque j'adore produire mes spectacles. J'adore aussi travailler sur tout ça. Et voilà, et le bouche à oreille, je dirais, il s'est fait progressivement entre les pros, mais ça a été un travail long et minutieux. Et je ne peux pas du tout dire que ça a été une sorte de carton immédiat, parce que ce n'est pas le cas, même si on a eu le prix de la presse à Avignon et que c'était vraiment super. Mais c'était quelque chose qui m'a donné en tout cas envie d'aller plus loin.
Alors, un petit aparté, tu parlais d'Avignon et de Greg Germain. Est-ce que c'était pour le in ou pour le off?
C'était pour le off.
D'accord, parce que je sais pas si c'était le cas à l'époque, mais je sais que Greg Germain a été directeur il me semble qu'il a été directeur du festival off à Avignon.
Absolument.
Je sais pas si c'est à l'époque où il était.
Alors, c'était pas à l'époque où il était directeur, mais en tout cas, il dirigeait déjà, puisqu'il dirige depuis très longtemps avec Marie-Pierre La Chapelle. Et après, j'ai eu la grande chance de faire une mise en scène dans le in pour le coup, mais voilà, moi j'ai vraiment commencé par le off, j'ai vraiment commencé par ce lieu qui était un lieu et qui est un lieu qui donne sa chance aussi à des artistes d'outre-mer. Moi je suis née à Paris, j'ai vécu à Aubervilliers puis à Paris, donc voilà, mais mon père et ma culture est aussi une culture d'outre-mer, et c'était voilà, on avait des liens très très forts de ce point de vue là, donc voilà, j'ai beaucoup de ce sont vraiment des gens avec Christophe qui, en tout cas en mise en scène, m'ont donné ma chance. Mais je dirais que plus que m'ont donné ma chance, m'ont vraiment aidé aussi à me structurer. Donc ça a été très important pour moi.
Greg Germain, je le précise, puisque c'est un grand nom du théâtre en France, puisqu'il a été d'abord en tant qu'acteur, ensuite en tant que directeur du Festival Off. Et c'est aussi une voix bien connue du doublage, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent sa voix sans connaître son nom. C'est lui qui, depuis à peu près, il me semble, le Prince de Bel-Air, double Will Smith encore à ce jour. Donc il a une voix bien connu. Tu parlais de Kofi Coley, tu as continué à collaborer avec lui, puisque tu as, j'avance un petit peu, mais il me semble que c'était en 2017-2018, puisque vous êtes, il me semble, parti en tournée. Tu as mis en scène une pièce dont il avait également signé le texte, qui était la pièce Seymour, qui en fait était centré, pardon, sur la jeunesse de Jean-Michel Basquiat. Seymour pour Seymour Cheat, qui était le nom de son collectif. Il me semble que vous l'aviez joué au Théâtre de la Tempête, entre autres, puisque c'est là que je l'avais découvert. Je connaissais moins ton œuvre à l'époque. C'était une très belle pièce. Il y avait notamment une partie assez importante qui était consacrée au père de Jean-Michel Basquiat, qui était joué par Éric Ebouanet. En tout cas, moi, c'était le cas quand je l'avais vu. Donc, je me demandais, alors, d'abord, comment cette collaboration avec Kofi Coley s'était déroulée, et qu'est-ce qui t'avait intéressé plus particulièrement dans le personnage de Jean-Michel Basquiat?
Alors d'abord, parler de Kofi Coley, c'est forcément parler de ma relation aux auteurs, parce que ce qui s'est vraiment affiné dans mon parcours de metteur en scène à travers le temps, c'est mon désir de travailler avec des auteurs vivants et de travailler par système de commandes. C'est-à-dire que Bintou a été, peut-être avec un spectacle que j'ai fait après, où j'ai monté un Molière dans un théâtre privé, voilà, ça a été les deux seuls spectacles où j'ai monté des textes de répertoire, en tout cas des textes qui existaient. Mais à partir de là, je n'ai fait que passer commande à des auteurs et des autrices vivants, Kevin Kais, Marie Dillasser, prochainement Claudine Galéa, récemment Laurent Godet. Et c'est pour moi très très important de travailler avec les écritures contemporaines et dès le départ du projet. Donc quand Kofi, on a travaillé ensemble sur Bintou, parce que Kofi m'a vraiment tendu la main quand j'ai monté ce spectacle en me donnant les droits, en me permettant de vraiment faire ce projet-là, je lui ai dit mais j'aimerais vraiment qu'on retravaille ensemble, mais cette fois je te passerai une commande d'écriture. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur la figure de Jean-Michel Basquiat. J'avais pas du tout envie de faire un spectacle, j'allais dire muséal, sur sa vie et sur l'artiste qu'on connaît. Et
je pense que les musées, ou en tout cas
exactement,
de l'image d'Épinal qu'il est devenu un petit peu.
Voilà, moi je voulais vraiment m'intéresser à une période un peu moins connue de sa vie, où il a à peine 20 ans et où il crée son identité artistique. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce spectacle-là, c'était qu'est-ce que ça veut dire la naissance d'une identité artistique ? D'où ça vient ? Comment ça se passe ? Et Jean-Michel Basquiat, qui a une carrière fulgurante mais courte, c'est très intéressant de voir comment il se forge un personnage, une identité artistique. Et donc, j'ai demandé à Kofi de travailler là-dessus, de sa relation avec la musique, sa relation avec New York, sa relation avec son père. Et on a fait un spectacle qui m'a vraiment ouvert les portes aussi d'une esthétique qui est la mienne maintenant, que je qualifie d'indisciplinée plutôt que de pluridisciplinaire, parce que j'essaye de rendre poreux les arts au plateau, tels que le théâtre, la musique, la vidéo, la danse. Et j'ai été accompagnée pour ce spectacle de musiciens incroyables, Blade MC Alimbaï, Nicolas Bodino, de Willy Pierre Joseph, qui est un danseur hip-hop extraordinaire, et de Yohan Piziou, qui est un comédien hors pair, qui travaille énormément avec Baptiste Amann aussi. Voilà, donc il y avait vraiment cette envie, en tout cas, de retravailler avec lui sur la jeunesse de cet immense peintre.
Effectivement, c'était une très belle pièce que j'avais eu la chance de découvrir à l'époque. Tu parlais également de tout ce
et qu'on a créé, pardon, à la Comédie de Caen, il faut quand même leur rendre ça. Voilà. Où j'étais artiste associé à l'époque.
Très bien. Et vous aviez fait ensuite plusieurs scènes, dont c'était bien le Théâtre de la Tempête.
Absolument.
Voilà, parce que je sais qu'à cet endroit-là, à Vincennes, il y a plusieurs théâtres.
Deux fois au Théâtre de la Tempête, voilà, j'ai joué. C'est une maison que j'adore.
Très bel endroit. Donc, tu parlais de, quand on est directeur, directrice d'une compagnie, des autres aspects que ça peut revêtir, notamment peut-être un aspect un petit peu plus organisationnel, un petit peu plus logistique. C'est quelque chose qui t'a aussi beaucoup occupé, puisque il me semble que pendant 5 ans, tu étais la directrice du festival au féminin, ce qui était basé dans le quartier de la Goutte d'Or, ici à Paris. Comment s'est passée cette expérience ?
Ça aussi, le festival au féminin, moi j'aime bien Je crois qu'on ne se construit jamais tout seul. Donc, j'aime bien citer les personnes qui vous permettent aussi de passer des caps et qui vous permettent de franchir des ponts. Quand j'étais jeune comédienne, j'ai eu une expérience assez extraordinaire de partir avec un metteur en scène qui s'appelle Khalid Tamer et qui avait monté un Goldoni au Maroc. Mmh. Et je faisais partie des comédiens qui avaient suivi cette aventure. Et en revenant, voyant un peu mon envie à la fois de mettre en scène, de fédérer des équipes, je ne sais pas, il a dû avoir une intuition. Il m'a dit, écoute, moi, je fais mes activités maintenant, elles sont beaucoup entre le Maroc, le Canada, etc. Je ne vais plus avoir le temps de m'occuper de ce festival. Si tu veux, je t'en confie la direction artistique. J'avais 25 ans, je n'avais jamais rien dirigé qu'une compagnie. Si ça marche, bah, tu continues. Et puis si ça ne marche pas, bah, je t'arrête au bout d'un an, quoi. Mais il y avait voilà, un tout petit budget. Il y avait une association qui s'appelait Graines de Soleil qui était déjà constituée, mais il n'y avait pas de... Voilà, il y avait pas de... C'était un petit festival. Et moi, j'ai vraiment orienté ce festival que lui avait créé pour redonner voix et une place aux femmes de la Goutte d'Or, aussi autour de l'émergence. Et donc, j'en ai fait vraiment un festival de création. Ça a été aussi pour moi un enjeu. Maintenant, j'accompagne essentiellement la création, et pour moi c'était les prémices vraiment de ça. À l'époque, j'ai eu la chance de recevoir des artistes très différents, mais qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, comme Julie Deliquet, qui a fait Dernier remords avant l'oubli au Lavoir moderne, dans l'une des éditions. Alexis Michalik, qui a joué le porteur d'histoire à l'église Saint-Bernard, qui a été bien connu pour son engagement pour les sans-papiers. Il y avait vraiment comme ça une effervescence, et on allait dans des lieux, on allait dans l'atelier de Sakina Emsa, pour un spectacle d'Eva Doumbia, qui avait sa marque de vêtements, chez des coiffeurs. Enfin, c'était vraiment une expérience assez extraordinaire de territoire et de terrain.
D'accord. Par la suite, en 2016, tu as été nommé à la direction des Plateaux Sauvages. Les Plateaux Sauvages, il me semble que c'est une salle qui existait déjà. Donc, dans le 20e arrondissement, le nom de la rue m'échappe, hélas.
La rue des Plâtrières.
Merci beaucoup. J'y suis allé en plus. C'était un établissement qui existait déjà, qui était vieillissant et que la mairie de Paris à un moment souhaitait moderniser. Donc c'est à ce moment-là que tu as été nommé en 2016, c'est bien ça ?
Alors, l'histoire est un petit peu plus peut-être complexe que ça. Dans toute cette période que tu décris, il faut dire aussi que pendant plusieurs années, j'ai été en résidence au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, où j'ai vraiment développé tout un travail avec les jeunes du territoire. Donc j'étais en résidence évidemment pour mes projets, mais j'ai vraiment aussi déployé des signatures de mon travail qui est le rapport à la transmission, en travaillant avec énormément de collèges, de lycées, d'écoles d'Aubervilliers et de la Courneuve. C'est un territoire dans lequel j'avais passé une partie de mon enfance avec mon père à la Cité de la Maladrerie, qui avait son atelier là-bas, et c'est un territoire qui m'était et qui m'est toujours extrêmement cher. Quand j'étais à Aubervilliers, j'ai fait la rencontre de mon directeur adjoint, qui est mon directeur adjoint aujourd'hui, Jean-Baptiste Moreno. On a vraiment eu cette collaboration entre l'objet artistique et le partage avec des publics. Et déjà, à l'époque, on se disait ce serait super de pouvoir faire ce qu'on fait dans un lieu avec d'autres artistes qu'on accompagnerait à la fois dans la création, mais qui pourrait aussi faire ce travail de transmission qui est tellement important pour nous. Et quand j'ai vu cet appel de la ville de Paris, qui avait plutôt que le fait de vouloir rétablir quelque chose de vieillissant, parce que vieillissant, c'est toujours du point de vue par lequel on se place, mais je pense qu'il y avait une intuition d'imaginer plutôt un lieu de fabrique où soit justement pour eux la création et la transmission, avec un cahier des charges qui était complètement ouvert, ils savaient tout ce qu'ils allaient y faire, on lançait cet appel à projet. Et cet appel à projet, il correspondait exactement à ce désir que j'avais depuis plusieurs années au Théâtre de la Commune, qui était né du Théâtre de la Commune et de ce territoire d'Aubervilliers. Et donc, naturellement, j'ai postulé. Bon, à l'époque, c'était encore une aventure un peu rocambolesque. J'étais enceinte de 8 mois quand j'ai postulé. Et tout le monde me disait, mais c'est n'importe quoi, voilà, une candidature là-dessus. Mais finalement, on l'a fait. Et je l'ai fait. Et j'étais très contente de le faire. Mais ce lieu-là, c'était la réunification de deux lieux qui étaient déjà réunis. Déjà, un bâtiment qui existe depuis les années 60, qui a été construit par un architecte qui s'appelle Jean Dumont. Et en fait, au fil des années, ce bâtiment a été divisé. Il y a eu d'abord, ça a donné le 20e théâtre, qui est un théâtre qui a existé jusqu'en 2016, qui était plutôt tourné vers un théâtre plutôt musical. Et puis, il y avait le centre d'animation des Amandiers, qui est comme une géante MJC, lycée de près de 2000 mètres carrés. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ces deux bâtiments et de pouvoir en faire un projet unique de fabrique au carrefour des mondes, de la création professionnelle et de la transmission artistique que j'ai nommé les Plateaux Sauvages.
D'accord, très bien. Alors justement, je rebondis sur ce que tu disais. Ça rejoint aussi certaines choses que tu disais avant, c'est-à-dire que la grande majorité, voire 100% des programmes que vous présentez sont des créations, des créations, en tout cas c'est la première fois qu'elles sont représentées. Et pour toutes les pièces que vous présentez, il y a à la fois la notion de création et de transmission, donc de représentation au public et de partage avec le public. Et il me semble qu'avec les artistes qui se représentent, vous parlez de co-réalisation plutôt que de coproduction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous fonctionnez ?
D'abord, le point important que tu soulèves, c'est que les artistes viennent chez nous. Il y en a 12 à 14 qu'on accompagne sur une saison. Ils viennent avec deux projets. Un projet de création, on va leur donner un certain nombre d'outils pour pouvoir développer leur projet. Ce projet des Plateaux Sauvages, c'est vraiment un projet que j'ai imaginé en me souvenant de ce qui m'avait manqué en tant que jeune compagnie dans la phase de création plutôt que dans la phase de diffusion. Donc je savais qu'à Paris, il y avait beaucoup de lieux pour montrer le spectacle une fois qu'il était abouti, mais assez peu de lieux pour poser ses valises et pouvoir vraiment être en résidence, chercher, avoir de l'accompagnement technique, etc. Donc ça, moi, c'est ce que j'offre aux artistes. Des espaces de répétition, des lieux pour pouvoir montrer un spectacle abouti ou une étape de travail. Hein, c'est pas obligé de venir. Cette année, on accueille Maëlle Dequette qui va montrer une étape de travail.
Un work in progress,
mais pas forcément une création aboutie. De la technique, etc. Et puis un accompagnement aussi dans la structuration des projets. Je t'ai dit précédemment que j'étais très intéressée par les questions d'administration, de production, etc. Mais les artistes, quand ils se lancent dans leur projet, ils débarquent et c'est bien un sûr. Monde qui est très difficile pour eux. L'autre projet avec lequel ils viennent, c'est un projet de transmission artistique. On préfère appeler ça transmission artistique qu'action culturelle. C'est quelque chose d'un petit peu volontaire et un petit peu qui se place un petit peu au-dessus sur l'action culturelle. Transmission artistique, c'était aussi la possibilité pour nous que des artistes rencontrent un public non initié du territoire, des gens qui sont des jeunes de collège, de lycée, des gens qui ne sont pas des professionnels du théâtre, à qui ils vont venir partager leur processus de travail. Donc ça va passer par des ateliers, ça va passer par des rencontres, ça va mettre en jeu du théâtre, de l'écriture, énormément de choses, ça va être des projets extrêmement demandeur pour les artistes, qu'on va de 20 à 150 heures d'intervention pour les projets les plus importants. Et ça va donner lieu à une restitution en avant-première des spectacles. Ce qui fait que les spectateurs chez nous, ils viennent d'abord rencontrer un artiste dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, avant de venir vraiment en tant que spectateur qui a un billet. Et puis après, effectivement, on pratique, j'allais dire hélas, parce que la co-réalisation, c'est un peu le modèle économique d'énormément de lieux à Paris. C'est un modèle qui ne me satisfait pas parce que je le trouve très précarisant pour les jeunes compagnies, puisque c'est un partage de recettes, un partage de billetterie. Donc les compagnies prennent forcément des risques, mais justement on développe depuis quelques années la coproduction, ça veut dire qu'en fait on finance, on peut maintenant financer une partie des projets des équipes et des compagnies, et donc on les accompagne vraiment jusqu'à rentrer en coproduction de leurs projets. Ouais.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Tout ce dont tu parlais, cet échange un petit peu en permanence avec le public depuis 2016, même si comme tous les lieux recevant du public, les théâtres, vous avez connu cet épisode, pour l'appeler comme ça, du Covid. Est-ce que justement, vous sentez, c'est quelque chose que vous arrivez à qui est palpable, l'implantation sur le territoire, c'est-à-dire que les liens que vous arrivez à nouer, à tisser avec le public, à fidéliser, ça c'est quelque chose que vous mesurez aussi ?
On le mesure totalement. Et puis notre lieu, il est complètement atypique. C'est-à-dire que c'est un lieu, d'abord, c'est pas un théâtre, c'est une fabrique. Donc il y a deux salles de spectacle. Effectivement, on accueille 12 à 14 compagnies par saison. Les gens peuvent venir voir des spectacles, mais ils peuvent aussi s'inscrire à des ateliers de pratique artistique amateur. Donc hebdomadairement, nous, on a des gens, on a plus de 500 participants du quartier qui viennent toutes les semaines faire du théâtre, du chant, de la danse, du yoga, du pilates, tout au long de la semaine. Pour te donner une idée, quand on a commencé, on a ouvert nos ateliers, il y avait 60 participants. Aujourd'hui, on est à plus de 500. Après la réouverture, après le Covid, on atteint des scores là, ces dernières années de plus de 80% de remplissage. Et la chance qu'on a, nous, c'est d'avoir un public extrêmement mixte. D'abord, on a inventé quelque chose d'assez chouette qui s'appelle la tarification responsable, qui est maintenant reprise par énormément de théâtres.
J'allais y venir. Est-ce que tu peux nous présenter en quoi
ouais,
ça
absolument.
Ça
moi, l'idée de la tarification responsable, elle m'est venue d'une expérience que j'avais en tant que metteur en scène ou comédienne à l'époque où j'étais intermittente. Quand j'étais intermittente, si je voulais aller au musée, si je voulais aller au théâtre et bénéficier d'un tarif préférentiel parce que j'étais intermittente, donc j'étais à l'époque dans la case chômeur, parce que c'est cette case à laquelle ça correspond, il fallait que je montre un relevé assez digne du mois pour prouver que j'étais... Voilà. Et en fait, je trouvais ça assez humiliant parce que je me dis, quelqu'un peut ne pas avoir une carte de famille nombreuse. Toi, Robin, tu dois même pas avoir 30 ans, tu pourrais très bien...
J'ai eu 30 ans cette année.
Bon, bah bravo Robin, mais tu pourrais gagner...
Je suis pas pour grand-chose.
Mais voilà, tu pourras très très bien gagner ta vie dans ta future carrière à 32 ans parce que tu fais un super spectacle qui cartonne. Et puis quelqu'un à 45 ans, subitement, bien se sûr. Retrouve sans le sou. Et de pas avoir à prouver ça et de mettre les gens face à leurs responsabilités. Donc la tarification responsable, c'est la possibilité de venir au plateau sauvage en choisissant son tarif entre 5 et 30 euros. On peut payer 5, 10, 15, 20 ou 30 euros selon ses moyens et sans justificatif. Donc la personne nous dit son tarif. Si on n'a même pas 5 euros, parce que nous on a un public très jeune qui vient au plateau sauvage, bien beaucoup sûr. D'étudiants, beaucoup de jeunes, 5 euros pour les étudiants, c'est un repas. Donc des fois, même 5 euros, c'est difficile de mettre. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le billet suspendu. Ça, on ne l'a pas inventé.
C'est le café suspendu qui
exactement,
me semble. Voilà.
Contrairement à la tarification responsable dont on a la maternité, si je puis dire. Mais le billet suspendu, c'est la possibilité pour un spectateur d'offrir un billet à quelqu'un qui n'aurait pas les moyens. Donc n'importe qui peut venir au plateau sauvage, prendre un billet suspendu, sans avoir à sortir son passeport, etc. Ce qui demande un travail aux équipes assez fin pour essayer de comprendre qui est notre public, qui vient, et donc de poser les bonnes questions, mais qui a un rapport profondément humain. Et en fait, on se rend compte que les gens jouent le jeu, parce que nos billetteries n'ont rien à envier à des billetteries plus classiques. Les gens jouent vraiment le jeu. J'ai toujours cet exemple d'une babysitter de mon fils que j'ai invitée, qui avait vraiment pas de sous à l'époque, à qui j'ai dit, je te donne une invitation, mais si tu veux venir avec tes copines, elle avait invité sa mère à l'époque, elle a payé 20 euros parce que pour elle, c'était important elle savait que ça venait soutenir la compagnie, qu'il y avait un partage de recettes, elle avait envie de faire un cadeau à sa mère, elle a payé cette place-là, elle aurait très bien pu reprendre un billet suspendu ou payer que 5 euros. Donc il y a vraiment cette conscience, en tout cas, des spectateurs. Et puis au plateau sauvage, notre marque de fabrique, par-delà la programmation qui est vraiment géniale.
On y reviendra bientôt.
La fille qui se fait mousser.
Mais il faut. Notion, si on attend les autres pour dire du bien de soi.
On ne pourra pas. Notre cartouche principale, c'est vraiment l'accueil. Moi, je trouve que l'accueil, c'est ce qu'il y a de plus important dans un théâtre. Donc pour moi, la propreté des toilettes, le sourire qu'on a à l'accueil, la déférence qu'on a vis-à-vis d'un enfant de 13 ans qui doit être la même qu'une femme de 60 ans qui est habituée au théâtre, tout ça, c'est notre marque de fabrique.
D'accord. Tu citais la programmation. Alors on est encore au mois de septembre, donc on peut dire techniquement c'est la rentrée. Au Plateau Sauvage, la rentrée s'est faite un peu comme partout ailleurs. Tu nous disais que chaque année vous recevez 12 à 14 créateurs et créatrices. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation de cette saison 2023-2024 ?
Ouais, avec grand plaisir. Alors, ma particularité de mes programmations, mais d'une manière générale depuis 2016, c'est que je revendique une diversité des esthétiques. Moi, je n'ai pas d'artistes associés au Plateau Sauvage. Je programme des artistes qui sont pas du tout dans ma famille de théâtre. Qui sont pas forcément... C'est éclectique. Et en même temps, ils sont tous reliés par une thématique de saison qui fait que le spectateur, qu'il aille d'un artiste à un autre, il a un chemin qui lui est tracé. Il y a ce fil rouge. Et cette année, la thématique de la saison, c'est intuition. Les intuitions, nos intuitions. Qui, pour moi, avec le désir, est le deuxième moteur le plus important qu'ont les artistes, en fait, que doivent avoir les artistes, faire confiance à leur intuition. Et donc, les artistes de cette saison, ils vont nous interpeller directement à travers leur spectacle sur cette thématique, soit ils vont être traversés par celle-là. On a ouvert la saison de façon là, complètement... tonitruante avec la géniale Estelle Meyer qui nous propose son nouvel opus qui s'appelle Niquer la fatalité.
Niquer comme la déesse, il me semble. Exactement. Mais pas écrit comme la déesse.
Voilà, Niquer la fatalité, où elle parle de qu'est-ce que ça veut dire de choisir son destin de femme, de fille, et où elle prend en fantôme bienveillant la figure de Gisèle Halimi. C'est un spectacle musical absolument extraordinaire qui est complètement inclassable et voilà, qui est complet. Du coup, d'un bout à l'autre, qui est complet jusqu'à samedi, on est même obligé de jouer les prolongations la semaine prochaine.
C'est bon.
Voilà, je te le dis en exclusivité.
C'est bon à savoir.
Prolongé lundi et mardi. Puis on continuera avec Tommy Mio, un texte d'Angus Sérini, une sorte de thriller haletant sur aussi des femmes qui prennent leur destin en main. Et puis on va retrouver des artistes très différents tout au long de la saison. On va passer par Carole Thibault, Victor Hénizan sur un projet complètement futuriste. Le groupe Fantôme qui a un processus de travail complètement dingue parce que les spectateurs viennent participer à toutes les représentations et toutes les répétitions. C'est une programmation qui est extrêmement vivante et j'invite tout à chacun à venir découvrir avec des artistes très différents, mais qui sont reliés par cette chose très profonde et qui vont faire... La particularité de cette saison, c'est que le spectateur va vibrer. C'est pas un spectateur qui vient juste voir un spectacle et se poser et repartir.
Un peu passivement, non.
C'est un spectateur qui va repartir avec des vibrations très très hautes.
Donc, c'est engageant. Parmi les... On parlait plus récemment de tes activités en tant que directrice du théâtre. En 2021, tu as également mis en scène, il y a beaucoup de syllabes, donc je vais essayer de le dire bien, Pintésilée, Amazonomachie.
Bravo.
Je l'ai bien dit. Il y a un tiret entre les deux.
C'est très rare.
Je ne l'ai pas répété.
Très, très rare.
Je l'ai écrit sous les yeux. Donc,
voilà.
Comme tu le disais, il me semble que c'était un... Donc, tu l'as mis en scène. Tu jouais dedans également?
Pas du tout.
Pas du tout.
C'était... Moi, je ne joue pas dans mes spectacles. Il y en a qui savent très bien faire ça, mais moi, ce n'est pas possible du tout.
C'était toujours avec la compagnie 0,8.
Absolument.
Hein. Voilà.
C'est une commande d'écriture que j'ai passée à Marie-Di Lasserre.
Voilà, ouais. J'allais y venir. Ouais. Tu me coupes l'herbe sous le pied, c'est fantastique. Je l'invente pas la phrase. Tu voulais parler de la relation complexe que les femmes entretiennent avec le pouvoir et tu dis Pintésilée est la reine des Amazones, une société de guerre, de violence qui exclut le masculin. C'est ça qui t'intéressait de raconter dans la pièce ?
Alors moi, ce qui m'intéressait avec la figure de Pintésilée depuis de toute façon plusieurs années, j'ai une passion pour les mythes. C'est un des grands axes de mon travail, qu'ils soient très anciens ou plus contemporains. Et j'ai une passion pour les mythes fondateurs et en particulier les mythes grecs. Fondateur, puisque j'ai monté les Troyennes et que Pentésilée est vraiment une héroïne qui traverse la guerre de Troie. Mais depuis quelques années aussi, je m'intéresse particulièrement aux figures oubliées de ces grandes mythologies. Mmh. Et Pentésilée fait partie un peu de ces figures oubliées. Quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi la guerre de Troie ou c'est quoi les héros de la guerre de Troie, ils vont vous parler d'Achille.
Hélène,
ils vont parler d'Ulysse.
Paris.
Agamemnon pour les plus avertis, etc. Mais Pentésilée, ça ne dit rien à personne. Par contre, vous dites Wonder Woman, tout le monde sait qui c'est.
Forcément.
Et c'est inspiré de ça. Moi, ce qui m'intéressait avec ce spectacle, c'était de interroger le lien qu'entretiennent les femmes avec le pouvoir et la puissance. Et de prendre pour prétexte cette figure pour pouvoir en parler. Et de voir comment le masculin et le féminin pouvaient... se rencontrer dans un esprit de réconciliation. Et j'ai commandé cette écriture à Marie-Di Lasserre pour en faire un spectacle total qui n'était pas du tout interprété par moi, mais par Laurie Hardel, Marie-Pascale Dubé, l'immense danseur burkinabé Seydou Boro et un chanteur et un chœur de 4 chanteuses lyriques. Pour moi, c'était très important. On l'a créé à Avignon, cette fois dans le Hin, à la Chartreuse. Et c'est un spectacle qui a été très important et très fort pour moi, ouais.
D'accord. Donc ça, vous l'avez présenté lors de la saison 2021-2022, c'est bien ça ?
2022, oui, ou 2021. Alors là, je suis me fous une colle.
Bon, c'est pas grave.
Avignon, c'était l'Avignon après l'Avignon qui a été annulé pour le Covid.
D'accord. Et ensuite, la pièce...
2021, je pense.
Vous aviez joué la pièce également au Plateau Sauvage ?
Pas du tout.
D'accord.
On l'a créée au Festival d'Avignon.
Okay.
Et puis après, on l'a tourné partout, dans tous les super beaux CDN de France, comme la Comédie de Caen, Colmar, Montluçon, qui nous ont accueillis. On l'a rejoué à La Tempête aussi longuement. Mais non, on ne l'a pas joué au Plateau Sauvage, puisque je m'applique les règles que j'applique aux artistes. Dans mon lieu, je privilégie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la création et pas la diffusion. Et ce spectacle était déjà créé, donc il n'avait...
pas sa place.
Plus sa place dans D'accord. la programmation.
Ok, très bien. Alors, tu nous parlais de ce qui allait venir sur cette saison 2023-2024. Comme tu le disais, tu as également, tu as déjà des projets pour les années à venir qui sont prévus. Tu parlais de Laurent Godet. Il me semble que tu as également des projets, notamment écrits par Joséphine Serre. Est-ce que sans trop en révéler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces projets-là?
Oui. Alors, le projet, ma dernière commande d'écriture, elle a été à un auteur que j'adore, qui est Laurent Godet, que je connaissais depuis longtemps. Il connaissait mon travail. On avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que Même si le monde meurt, est un texte qu'il a écrit et que je lui ai demandé d'écrire sur la question de la fin. Et où il prend pour prétexte la fin du monde, une fin du monde fictive, où on a un groupe de jeunes gens qui sont ces jeunes acteurs, les jeunes acteurs de l'Atelier Cité, du Théâtre de la Cité à Toulouse. Je lui ai demandé aussi d'écrire pour des jeunes acteurs, quatre jeunes femmes et quatre jeunes hommes, comédiens extraordinaires, et où on suit le parcours comme ça de ces jeunes gens qui sont face à leur propre fin et donc à leur propre commencement. C'est un projet qu'on a créé au Théâtre de la Cité à Toulouse, enfin qui a été créé au Printemps des Comédiens, au Festival du Printemps des Comédiens, qu'on reprend au Théâtre de la Cité à Toulouse et qui va jouer à la MAC de Créteil. Le projet que j'ai avec Joséphine Serre et Grégoire Le Touvet est un projet d'opéra sur le mythe de Nausicaa.
Encore un mythe,
un grand voyage d'Ulysse. Mais avant de plonger dans ce grand opéra autour de cette figure féminine de Nausicaa, j'avais aussi envie de faire un détour par la figure d'Ulysse aussi. Et donc là, j'ai passé une commande d'écriture qui m'a été livrée dans sa première version il y a quelques jours, donc je suis très très émue, à Claudine Galéa, qui est une autrice que j'adore, et c'est un spectacle que je vais créer à la Comédie Française cette année.
Bel accomplissement.
En avril 2024, qui va s'appeler Trois fois Ulysse, et les répétitions commencent en janvier, et la première est le 3 avril, je crois, au Vieux Colombier, à la Comédie Française.
Super, merci beaucoup. Alors, je vais te poser la question que je pose à chacune et chacun de mes invités pour clore l'émission. Là, c'est en plus la toute dernière fois que je la poserai. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs et nos auditrices une œuvre culturelle qui t'est particulièrement chère, qui te tient particulièrement à cœur ?
Bah, je pourrais citer énormément d'artistes de théâtre pour lesquels j'ai énormément d'admiration, mais j'ai envie de parler de toute autre chose qui est plutôt d'un autre art qui ne cesse de m'émouvoir, qui est la peinture, qui sont les arts visuels. Et tu as dit le nom de ma compagnie tout à l'heure, qui est la compagnie 0,10. Elle s'appelle comme ça parce que dans tout ce parcours que tu m'as fait dérouler, ça ne me rajeunit pas, je vais ressortir avec quelques rides.
Désolée.
Voilà, j'ai aussi fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Et dans ce parcours-là, j'ai fait la rencontre d'un immense peintre qui s'appelle Malevitch, qui est un peintre ukrainien qui est né à Kiev, et qui a fondé un mouvement dans les années 1915-1930 qui s'appelle le suprématisme et qui sont les prémices de la non-figuration. Donc, c'est pas très sexy, hein, c'est carré noir sur fond blanc, croix noire sur fond blanc, carré blanc sur fond blanc.
C'est minimaliste.
Mais c'est un artiste qui m'a complètement bouleversé dans son rapport au temps. Et c'est vraiment un artiste que j'invite à découvrir. Et ma compagnie s'appelle comme ça parce que il a fondé une grande exposition avec tous les suprématistes et les constructivistes de l'époque qui s'appelait la dernière exposition futuriste de Petrograd de 1915, 0,10, et je l'ai appelé comme ça. Et ce qui est très émouvant avec ce plasticien, c'est qu'il a fondé ce mouvement aujourd'hui, faire un tableau non figuratif, c'est beaucoup plus courant. En 1915-1930 en Russie, vous pouviez aller en prison pour faire ce type d'œuvre. Et c'est quelqu'un surtout qui a signé la fin de son mouvement, qui, au bout d'un moment, est arrivé au bout de cette œuvre suprématiste et a dit « le suprématisme est mort ». Et je trouve que c'est un très bel acte et je suis assez émue à chaque fois que j'y repense à ce peintre, parce que il me rappelle à quel point il y a une phrase de Garnier que me disait souvent Élise Vigier, qui est une grande comédienne, que je trouve magnifique, qui dit « les royautés sont choses éphémères ». Et je crois que s'il y a bien une chose qu'on peut retenir de ce métier, c'est que tout est très éphémère et que voilà, j'ai la chance de faire une mise en scène à la Comédie Française la saison prochaine, cette saison. Et peut-être que demain, je devrais tout recommencer à zéro parce que c'est ça aussi ce métier et qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'est que de passage. Donc merci Malevitch pour me rappeler ça.
Très belle leçon d'humilité. Merci beaucoup Laetitia pour cette interview passionnante. Merci d'être venue avec nous dans l'émission, nous raconter ton riche parcours, ta carrière, ton activité en tant que directrice de théâtre et ce qui t'attend à venir.
Merci à toi Robin.
Bonne soirée à toutes et à tous.